Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment former notre esprit critique et pourquoi il est urgent de le faire? Attentats, réchauffement climatique, vaccins, etc. Des théories du complot à la désinformation, de la simple parano à la persistance des idées reçues. L'époque est à la remise en question. Alors nos cerveaux sont-ils programmés pour croire ou pour douter? Quel système d'autodéfense mettre en place pour que la raison ait le plus souvent gain de cause? On ouvre la réflexion à l'occasion de la parution de l'ouvrage « Des têtes bien faites, défense de l'esprit critique » auprès universitaire de France, qui rassemble les contributions de chercheurs, mais aussi d'enseignants, de vidéastes ou encore de webmasters. Un ouvrage collectif publié sous la direction scientifique de l'auteur de La démocratie des crédules, le sociologue Gérald Bronner. Avec nous, l'un de ses contributeurs, que l'on suppose être une tête bien faite, le psychologue et mathématicien Nicolas Gauvry, chercheur en sciences cognitives à l'EHESS. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La question importante sur ce sujet est-elle celle du pourquoi pour vous? C'est-à-dire pourquoi nous empressons-nous d'y croire?
Ça c'est une question qui a déjà été traitée sans doute depuis assez longtemps. Et la question à laquelle nous on voulait s'atteler, c'est plutôt comment. C'est comment s'en sortir. Et c'est un peu le message de ce livre. C'est de montrer que comment s'en sortir, il y a plein d'idées qui circulent. C'est pour ça que dans ce livre collectif, donc il y a à la fois des chercheurs et justement des praticiens, si on peut dire, de l'esprit critique, des gens qui font des formations, des enseignants qui essayent de développer l'esprit critique de leurs élèves. Et maintenant, si on applique l'esprit critique à son objet, donc à son enseignement, disons, eh ben, on doit se demander, est-ce que ça marche tout ça? Est-ce que parmi toutes les idées qui ont été développées, il y en a qui fonctionnent ou pas? Il y a déjà quelques pistes pour dire que certaines des idées ne fonctionnent pas, et qu'il y a au moins quelques caractéristiques dont on sait qu'il faut se préoccuper si on veut faire quelque chose qui fonctionne.
Alors pourquoi sans idéologie, ou comment sans idéologie définiriez-vous une tête bien faite, ou comment définiriez-vous tout simplement l'esprit critique?
Ben voilà, ça c'est la question. Et l'esprit critique, on pourrait dire que c'est la capacité à raisonner de manière autonome et rationnelle. Par exemple, c'est une des définitions, il y en a plusieurs possibles. Quand on regarde les définitions des experts de l'esprit critique, des psychologues qui travaillent sur l'esprit critique ou des chercheurs en éducation qui travaillent là-dessus, assez souvent il y a beaucoup de choses, ils détaillent plein de facteurs différents, c'est très très large. Ça commence avec des facteurs qu'on appelle de bas niveau en psychologie, ce qui ne veut pas dire simple, hein, mais ça veut dire proche de la perception par exemple. Donc on classe parfois dans l'esprit critique la capacité simplement à comprendre, à compréhension en lecture. On lit quelque chose, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il y a d'implicite, etc. Tout ça, ça fait partie de l'esprit critique. Et puis ça va jusqu'à des choses de haut niveau, dans le sens où c'est plus complexe et réfléchi, comme par exemple vérifier les sources sur Internet. Et ça, c'est vérifier les sources sur Internet. Tout le monde comprend pourquoi c'est urgent de s'en préoccuper aujourd'hui. Mais plus je regarde ce qui tourne autour de l'esprit critique, et plus je me demande si en fait la vraie bonne définition de l'esprit critique, c'est pas juste l'intelligence, au sens où on l'entend de manière plus courante que le quotient intellectuel, par exemple. Le quotient intellectuel, c'est une manière très particulière de concevoir l'intelligence. Et on imagine quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui n'est pas naïf, qui ne va pas se faire rouler facilement, mais qui en même temps n'est pas rigide, qui peut évoluer dans ses croyances si on lui apporte des preuves qu'il a tort. Et si c'est ça l'intelligence, ben c'est l'esprit critique. Voilà.
Et en même temps, vous le rappelez en ouverture de cet ouvrage collectif, avoir l'esprit critique, c'est avoir conscience des limites aussi inhérentes à notre pensée humaine, souple, rapide. Celle-ci est cependant souvent fautive et presque toujours approximative. L'esprit critique a des fondements, mais il a aussi une histoire que vous nous racontez à travers cette quête collective. Vous disiez, avoir l'esprit critique, c'est penser, agir aussi de manière autonome et rationnelle. Mais autonome, c'est extrêmement compliqué, et vous le rappelez dans cet ouvrage, parce que l'être humain est un animal social, et un animal social sous influence. Ça, c'est notre quotidien à tous. Sylvain Deloubet, qui est chercheur en psychologie sociale, insiste sur cette question-là, le poids des autres sur nos perceptions et nos jugements. Alors, qu'est-ce que vous entendez par autonome?
Alors oui, une autre manière de le dire, ce serait être capable de bien évaluer justement l'influence que les autres peuvent avoir sur nos croyances. Les autres, ça peut être en vrai, hein, voilà, in real life, mais ça peut être aussi sur Internet. Et pour juger si oui ou non on devrait se laisser influencer dans telle ou telle situation. Et c'est effectivement, c'est quelque chose de très difficile parce qu'il faut toujours être, c'est toujours entre deux en fait, l'esprit critique. On parle parfois de l'art du doute. Mais quand on dit l'art du doute, ça ne veut pas dire douter de tout. Et une des craintes qu'on a justement pour certaines pédagogies qui sont utilisées pour développer l'esprit critique, c'est qu'au lieu de développer l'esprit critique, on développe le scepticisme et qu'on fasse des gens qui ne croient plus à rien. Et c'est une question qu'on s'est posée très sérieusement avec Christophe Michel, qui gère la chaîne Hygiène Mentale, et donc malheureusement qui n'a pas participé au livre, on aurait bien aimé. Et on se posait cette question. Quand, dans une école, on montre à des enfants comment faire pour vérifier qu'une photographie trouvée sur Internet est vraie et dit bien ce qu'elle est censée dire. Quand on leur explique comment vérifier aussi qu'une vidéo montre bien ce qu'elle est censée montrer. Et que tous les exemples qu'on prend pendant l'année, et c'est ce qui se passe assez régulièrement, sont faux, systématiquement. On se demande, est-ce qu'à la fin, on va pas avoir des gens qui croient plus en rien et qui disent, de toute façon, les médias, Internet, tout ça, ça ne vaut rien, donc je ne crois rien. Voilà. Ce qui pourrait donner une suspension du jugement au mieux sur à peu près tous les sujets. Et ce serait quand même embêtant. Et c'est pas à ça qu'on veut arriver.
À une société sceptique et parano sur toutes les informations qu'on lui délivre.
Voilà, on essaye de distinguer. Il faut trouver un équilibre entre la naïveté et la rigidité.
Alors, ça fait partie des questions que vous abordez, la question du comment faire, hein, comment, bien sûr, s'éduquer, s'entraîner, entraîner notre esprit critique, la question de cette formation de l'esprit critique, et vous rappelez quelques expériences, méthodes utilisées aujourd'hui, des sortes de cours d'autodéfense intellectuelle. Vous évoquiez à l'instant la chaîne YouTube Hygiène Mentale, qui essaye de diffuser un peu matière à esprit critique de manière ludique. Exemple ici avec le sophisme du procureur.
Voici la première leçon que la formule de Bayes peut apporter à la pensée critique. Il faut mettre en compétition les différentes hypothèses, en cherchant dans quelle hypothèse le résultat de notre expérience est la plus vraisemblable. C'est un peu l'équivalent du proverbe zététique « l'alternative est féconde ». On oublie souvent de faire ça. Par exemple, quand on se contente de chercher les défauts de la théorie officielle en pointant du doigt les éléments qui ne collent pas. Mais il ne suffit pas qu'il y ait des éléments qui ne collent pas avec la théorie A. Il faut encore que ces éléments collent mieux avec une autre théorie B, et que cette théorie B puisse expliquer tout ce que pouvait expliquer la théorie A. Et si un élément est invraisemblable dans toutes les théories, et que dans la théorie A c'est très peu vraisemblable, mais quand même un peu plus que dans les autres, eh bien cet élément est quand même une preuve en faveur de la théorie A. Mais le chercheur de vérité, lui, se contentera de dire « Ici, là, tel petit détail ne colle pas avec la théorie officielle. Nous ne soutenons aucune hypothèse en particulier. Nous ne disons pas que c'était un inside job. Nous contestons juste la version officielle. Et nous voulons dépenser de l'argent public pour réouvrir le dossier. » Ce qui fait la preuve, c'est le rapport de vraisemblance. Genre, cet élément X est 10 fois plus vraisemblable dans la théorie A que dans la théorie B. Il faut comparer les différentes hypothèses.
Alors les leçons bayésiennes du nom du mathématicien britannique Thomas Bayes, qu'est-ce que c'est que de raisonner de façon bayésienne pour vous aujourd'hui, Nicolas Gauvry? Vous nous donner un exemple pratique, encore un peu plus, cette
oui,
question
pas,
des probabilités aussi.
Mais en réalité, quand on parle de raisonnement bayésien, le plus souvent on veut juste dire raisonnement probabiliste. Et il y a quelque chose d'assez étonnant avec l'esprit humain, c'est que on trouve de plus en plus de preuves en psychologie qu'on raisonne spontanément de manière probabiliste. C'est-à-dire, par exemple, que quand on a des croyances, on ne les a pas de manière absolue. Et si je prends, par exemple, je ne sais pas, l'exemple des médecines alternatives, vous avez beaucoup de gens qui croient à l'homéopathie, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'ils vous disent, l'homéopathie, je sais que ça marche, mais pour les maladies vraiment graves, je la prends juste en complément de ce que me donne mon médecin, par exemple.
Ça marche peut-être pour mon rhume, pas forcément pour mon cancer.
Voilà, et en fait, dans les comportements, on voit qu'il y a une adhésion qui n'est pas complète à la croyance. Mmh. Voilà. Alors, il y a quelques exceptions, il y a des valeurs sacrées, des fois, auxquelles on adhère absolument et complètement, mais en général, il y a des degrés comme ça. Et on arrive à modéliser le degré d'adhésion par des probabilités. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que l'esprit humain fonctionne assez bien pour faire un équivalent des calculs probabilistes, donc c'est du raisonnement bayésien, comme on dit, mais il y a quand même des ratés. Et notamment, il y a des ratés souvent quand il y a beaucoup d'informations ou quand il y a des toutes petites probabilités. Voilà, un exemple très classique qu'on donne, c'est celui des tests médicaux, par exemple. Si vous avez une maladie très rare et que vous faites passer un test très fiable à une personne au hasard dans la population et qu'elle donne un test positif, ce qui voudrait normalement dire qu'elle est atteinte par la maladie, en réalité, avec les chiffres ad hoc, hein, mais avec des chiffres tout à fait proches des vrais chiffres, par exemple pour le sida ou des choses comme ça, en fait, quelqu'un qui a un test positif est très probablement pas malade. Parce que le fait que le test fonctionne, ça augmente la probabilité qu'on peut attribuer à cette idée qu'il est malade. Mais comme cette probabilité au départ était extrêmement faible, je vais le redire autrement s'il faut. Mettons qu'une maladie touche une personne sur 1000. Voilà, c'est très rare. Donc si je prends une personne au hasard, a priori, la probabilité que cette personne soit malade est de 1 sur 1000. Très faible.
C'est clair.
Si je lui fais passer un test qui marche presque tout le temps, mais pas tout le temps, parce que les tests ne sont pas fiables à 100%, et que le test me dit que la personne doit être malade, le test est positif. Qu'est-ce que ça change pour moi? Ça fait que je vais réévaluer, normalement, si je travaille vraiment en probabiliste et en bayésien, je dois réévaluer ma probabilité a priori qui était de 1 pour 1000. Donc elle était très faible, elle va monter. Par exemple, ça va devenir, si elle est multipliée par 10, ce qui est déjà énorme, elle va passer à 1 sur 100. Si elle est multipliée par 100, elle va passer à 1 sur 10. Mais même si on est à 1 sur 10, ça veut dire que très probablement, la personne n'est pas malade. Et ça, bah, c'est un cas où, justement, on a du mal à comprendre ce qui se passe, parce que bien qu'on raisonne spontanément de manière probabiliste, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui pose problème. Et du coup, on risque de faire des erreurs. Et alors là, c'est vraiment un problème de société, parce que les erreurs, on les fait, et pas seulement nous, on les fait tous, y compris les médecins, qui font passer des tests et qui concluent que la personne est probablement malade alors que les probabilités disent le contraire, et qui conseillent parfois des traitements très lourds qu'il ne faudrait pas conseiller.
Alors vous montrez à travers ces exemples-là les failles qu'il peut y avoir dans notre cerveau et ce qui fait aussi que notre cerveau reste exposé aux fausses informations. Juste une question, vous qui êtes mathématicien, qui avez grandi dans les chiffres, est-ce qu'avec votre logique mathématique, vous arrivez à vous prémunir mieux que votre voisin, qui est un homme de lettres, aux fausses informations, aux théories du complot? Est-ce que votre esprit à vous, votre tête est mieux faite?
Je pense pas. Il y a certains types de problèmes peut-être que je vais mieux repérer comme potentiellement à risque.
C'est-à-dire que la logique mathématique ne s'applique pas forcément.
Elle ne devient pas naturelle en fait. Les erreurs qu'on fait spontanément, intuitivement, donc que ce soit en probabilité ou autre chose dans le raisonnement courant, ça reste. Et être capable de développer l'esprit critique, c'est pas changer ses intuitions pour qu'elles deviennent justes, parce que ça on peut pas. Ou dans une très faible proportion. Ce qui est, c'est être capable, c'est ça avoir l'esprit critique, être capable de détecter des situations où on risque de se tromper. Et donc moi, quand il est question de maladie, de tests, etc., j'essaye pas de deviner comme ça, et je me fie pas juste je me fie pas à mon intuition. Et quand on a fait des mathématiques, on a l'habitude de ces intuitions fausses, parce qu'en mathématiques, ça arrive tout le temps. On travaille sur un problème, d'un coup on a une illumination, on est sûr de la solution, et puis quand on essaye de l'écrire, on s'aperçoit que c'est faux. Et ça, ben ça finit par nous faire douter de nous-mêmes, et c'est une étape très importante dans l'esprit critique. Face à ce genre de problème, voilà, il faut être capable, c'est ce que les psychologues appellent l'inhibition, il faut être capable de se dire, ça c'est une situation à problème, mon intuition peut me tromper, il faut que je fasse autrement.
Alors sur cette question de la formation d'esprit critique, il y a évidemment un point, une dimension qui est essentielle, c'est celle de la source, celle des figures d'autorité qui nous délivrent le message, celle aussi qui viennent confirmer ce qu'on pense avoir compris ou ce qu'on pense croire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour comprendre ce qu'est l'effet gourou développé, défini par Dan Sperber?
Alors l'effet gourou, c'est le fait qu'on a tendance à disons, croire à peu près n'importe quoi quand ça vient d'une figure d'autorité. Bon, c'est pas absurde du tout, hein. Faut bien dire que toutes ces erreurs qu'on peut commettre en fait ont un fond assez logique, hein, mais assez rationnel. Mais quand on pousse un peu plus loin, ça revient à croire qu'un discours qui ne veut absolument rien dire est profond. Et ça, c'est un levier formidable pour ceux qui veulent développer le bullshit et se faire passer pour des experts en tout et n'importe quoi. À cause de ce fonctionnement qu'on a, si on a en face de nous quelqu'un qui passe pour une figure d'autorité, pour un expert, et qui prononcent des phrases qui ne veulent rien dire, ou même qui veulent dire quelque chose mais de complètement trivial, on a un risque très important d'interpréter ça comme la preuve qu'il nous dit quelque chose d'extrêmement profond. Et ça vient assez spontanément, ça marche très bien. Et beaucoup de gens en profitent, je crois, avec la forme. Il faut une certaine aura quand même. Si moi je dis quelque chose qui veut rien dire, en général, les gens disent il veut rien dire. Mais... Et alors ça vient d'où ? C'est ce que Dan Sperber explique. Ça vient de ce qu'il appelle la charité interprétative. C'est-à-dire que, a priori, normalement, dans les discussions habituelles avec les gens, quand quelqu'un me dit quelque chose, c'est vrai et c'est informatif. C'est assez rare, en fait, les cas où les gens mentent ou essayent de se faire passer pour quelque chose qu'ils ne sont pas. Donc, a priori, on me dit quelque chose, ça doit être vrai, ça doit être informatif. Si, en plus, c'est quelqu'un qui est expert du domaine, reconnu, etc., ça doit être profond, en plus. Et donc, si ça ne veut rien dire pour moi, c'est-à-dire que je n'arrive absolument pas à comprendre ce qu'il me dit, il y a deux explications. Soit ça ne veut vraiment rien dire, soit je ne suis pas assez intelligent pour comprendre, ce qui prouve à quel point c'est profond. Et c'est souvent ça qui se passe donc, quand des vraies grandes figures d'autorité, des intellectuels, font des phrases qui ne veulent rien dire. Et il y a eu des tests, alors ça c'est un sujet de recherche passionnant et très amusant, mais il y a vraiment des chercheurs en psychologie qui travaillent là-dessus, et qui font des phrases par exemple avec des logiciels qui fabriquent des phrases qui ne veulent rien dire, avec des mots-clés comme cosmique, quantique, etc. Et puis ils montrent ça à des gens, et leur demande ce qu'ils en pensent. Est-ce que ça dit quelque chose de profond? Est-ce que ça dit quelque chose de vrai? Et ben, pour des phrases comme ça, qui n'ont juste aucun sens, beaucoup de gens trouvent que c'est vrai et c'est profond. Voilà.
Et alors ça, on a inventé des boucliers anti-bullshit, anti-experts aussi, et expertise, ça existe? Il y a une manière de se prémunir de cela?
Ben, je pense que là encore, il faut être capable de repérer des situations à risque et de suspendre son jugement, je pense que c'est... Mais voilà, là encore, on va pas changer vraiment les intuitions, mais disons qu'on peut apprendre, quand on comprend pas une phrase venant de quelqu'un qu'on estime très intelligent et profond, on peut apprendre au moins à dire, sur cette phrase-là, je suspends mon jugement, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Après, c'est pas parce qu'il y a une phrase de temps en temps qui veut rien dire que la personne dit tout le temps n'importe quoi. Mais c'est toujours une sorte de deuxième détente, si on veut. On va pas changer le premier réflexe qui sera de se dire que c'est profond, mais on peut corriger après.
Oui, parce qu'a priori, et à contrario, c'est aussi ce que vous montrez pour comprendre si une information est vraie ou en tout cas crédible, c'est-à-dire pour faire marcher aussi son esprit critique, c'est important, là encore, de s'intéresser à la source de l'information. Et c'est aussi souvent, exemple, l'enseignant qui va pouvoir, lui, instaurer un climat de confiance pour développer l'esprit critique, apprendre à ses élèves, à ceux qui l'écoutent, comment distinguer le vrai du faux. On peut aussi penser à la question de la médiation, a priori, si vous êtes invité ici autour de cette grande table, l'auditeur, celui qui nous écoute, peut se dire que nous avons exercé un travail de médiation et de certification de la source, c'est-à-dire que nous soyons assurés qu'on n'a pas invité un expert qui parle pour ne rien dire, mais bien un chercheur qui a travaillé son sujet. Et donc, a priori, on va pouvoir vous croire en toute confiance sur ce que vous nous dites. Le problème, c'est justement quand les émetteurs crédibles, voire même tout le corpus ou l'intégrité scientifique est remise en cause, et c'est le cas actuellement, sans compter la défiance envers les médias et la manière dont ils pratiquent leur travail. Je vous propose de prendre un cas pratique sur la toxicité des maïs OGM. Retour sur une bataille d'experts. Elle a débuté en 2012 avec la première étude du biologiste Gilles-Éric Serralini. Aux résultats controversés. Après une série de contre-expertises, la plus récente, publiée la semaine dernière, était censée mettre fin à cette polémique. Eh ben non, réaction du principal intéressé, Monsieur Serralini.
Gilles-Éric Serralini, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, coup dur, puisqu'on l'a compris, cette dernière étude pilotée par l'INRA et l'INSERM, coordonnée par un professeur en toxicologie, Bernard Salles, conclut qu'on ne peut pas dire que manger du maïs provoque des cancers chez le rat et par projection chez les humains. C'est un sérieux désaveu pour vous. Est-ce que c'est un point final pour ce débat?
D'abord, ce n'est pas un désaveu. Comme vous l'avez remarqué, ils ont arrêté toutes leurs études à 6 mois. Si nous avions arrêté notre étude à 6 mois, nous n'aurions rien vu. C'est au cours de la deuxième année, en fait, que les rats ont développé le plus grand nombre de tumeurs, on le voit bien sur nos courbes, et ont développé des maladies des foies et des reins que nous avons confirmées dans Scientific Reports Nature, qui est une très grande revue, en 2016 et en 2017. Non, ce n'est pas un point final. Par contre, je m'interroge sur le fait qu'ils veuillent arrêter leurs études à 6 mois, et j'ai démissionné du protocole de suivi de cette étude auquel j'avais été convié, parce que Monsanto faisait partie des gens autour de la table et qu'ils voulaient toujours réduire au minimum tout ce qui était étudié. On est en train de détourner la réalité, c'est-à-dire que l'agence européenne va tester simplement le glyphosate et va demander simplement à Monsanto les tests sur le glyphosate, alors qu'on trouve que les poisons cachés à côté, qui font 60% du Roundup, sont 1000 fois plus toxiques. Donc là encore, c'est comme si on voulait tout organiser pour masquer la réalité, et je trouve que cela est vraiment indécent.
Voilà, alors ça fait plus de 6 ans que cette bataille d'experts dure. Nicolas Gauvry, moi je suis une grande consommatrice de maïs, j'aimerais juste savoir si le maïs transgénique que je vais manger est mauvais ou pas pour la santé. Si on prend un cas comme celui-ci, qui croire? Comment on fait pour définir quel protocole est le bon? On voit que même les relais d'opinion, la presse spécialisée est un peu perdue dans cette bataille, elle n'arrive pas à choisir son camp. Certains affichent un soutien pour Gilles-Éric Séralini, d'autres pour le camp ou les camps adverses. Comment se situer dans ce type de débat scientifique?
Alors quand il y a un débat scientifique, en fait la science avance assez lentement et parfois il y a des controverses. Je prends un autre exemple plutôt que ça moins moins clivant, j'imagine. Par exemple le réchauffement climatique. Pendant une période, il n'y avait pas consensus parmi les chercheurs, donc il y avait des vraies controverses scientifiques. Et puis on a maintenant un vrai consensus, c'est-à-dire que presque...
GIEC a parlé en tout cas, oui.
Oui, mais là, moi, je parle pas que d'un groupe gouvernemental. Je veux dire, parmi les scientifiques qui étudient la question, tout le monde est maintenant convaincu des grandes lignes, en tout cas. Et ben, y a toujours quelques personnes pas d'accord. Hein, ça, on n'arrive jamais à un consensus absolument parfait. Mais assez souvent, ça se passe comme ça en science. C'est-à-dire, il y a une période pour les questions chaudes, disons. Il y a une période où il n'y a pas consensus et où il y a beaucoup de discussions. Et en fait, c'est le temps de la science qui est assez lent. Et si les médias veulent s'emparer de la question à ce moment-là, c'est embêtant parce que pour l'instant, le travail n'est pas fait chez les scientifiques. Et ensuite, ce qui se passe assez souvent, c'est que du côté scientifique, on aboutit très vite selon les critères de la science, mais ça prend quand même des années, à un consensus, mais ça reste présenté dans les médias comme un dissensus, comme s'il y avait des controverses qui en réalité n'existent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des controverses scientifiques. Et les gens confondent assez souvent les controverses scientifiques, donc ce qui se produit parfois quand les scientifiques, les spécialistes d'une question ne sont pas d'accord entre eux, et puis des controverses qui sont qui opposent les médias et la science, soit qui sont simplement à l'intérieur des médias. Il y a plusieurs thèmes comme ça où les gens ont l'impression qu'il y a des controverses qui n'existent pas. Après, pour savoir quand on est citoyen comment faire pour trouver la bonne source d'information et qui croire, c'est quelque chose d'assez compliqué effectivement. Mais disons une première piste qu'on développe dans les formations et dont on ne sait pas encore si ça fonctionne, donc puisque on va les tester bientôt. Mais une première piste pour ça, c'est d'expliquer comment fonctionne la science, voilà, et d'expliquer comment on peut faire pour chercher directement du côté scientifique, bon, pour les questions évidemment qui vous intéressent. Par exemple, moi je fais des formations pour des psychologues et je leur montre comment faire pour chercher l'état actuel de la science sur une question de psychologie. Mais assez bizarrement, même quand on est psychologue praticien depuis longtemps, en fait on n'a pas conscience du fonctionnement de la science et on ne sait pas comment chercher. Voilà, donc ça c'est peut-être une piste qui évidemment ne sera pas accessible à tous les citoyens.
Non, mettez un voilà, point. Non, vous étiez suspendu, je vous laissais terminer. Voilà, qui est peut-être pas accessible à tous les citoyens. Avec nous, le psychologue et mathématicien Nicolas Gauvry, chercheur en sciences cognitives à l'EHESS. Il est l'un des contributeurs de cet ouvrage collectif des têtes bien faites, défense de l'esprit critique, qui paraît aux presses universitaires de France. Et il est avec nous jusqu'à 13h30.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Vous soulignez collectivement dans cet ouvrage l'importance de la preuve. Le problème, c'est l'absence de preuve et la charge de la preuve. On se souvient des mots du scientifique américain Carl Sagan. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. On va parler ensemble, si vous le voulez bien, Nicolas Gauvry, des théories du complot dont on dit qu'elles pullulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On peut encore observer la dernière poussée de fièvre complotiste, celle de l'attaque du marché de Noël de Strasbourg qui serait arrivée à point nommé pour faire diversion, créée de toutes pièces par l'État pour mettre fin au mouvement des Gilets jaunes. C'est important cette question aussi, puisque vous soulignez que d'un côté, il y a le fond et il y a la forme. Aujourd'hui, Internet est clairement un démultiplicateur de récits, parce qu'elles ne sont pas nouvelles, ces théories du complot.
Ah oui, il y a la même chose pour les fake news, pour les rumeurs. Toutes ces choses-là existaient avant. Le bullshit aussi, dont on a parlé. Tout ça, ça existait avant, évidemment. Et avec Internet, on a simplement la même chose en beaucoup plus rapide, avec beaucoup plus de monde, et avec en plus des effets pervers de l'anonymat sur les réseaux, qui fait qu'on a des réactions. Parfois, je me dis que ce serait très drôle de faire simplement une vidéo où on voit deux vraies personnes qui discutent et qui disent ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que des gens qui s'enflamment tout de suite, qui sont agressifs, qui s'insultent au bout de deux échanges. Il y a ça, une sorte d'agressivité, de polarisation. Donc oui, c'est démultiplié par Internet. Et alors pour les théories du complot...
Alors c'est à la fois un démultiplicateur et un accélérateur, ça c'est ce que montre le sociologue Gérald Bolder dans un tableau comparatif. C'est que le temps de latence aujourd'hui entre un événement et la mise en doute de cette version officielle de l'histoire est de plus en plus réduite. Il a fait le calcul, 27 jours pour l'assassinat de JFK en 63, 27 encore pour les attentats du 11 septembre, mais zéro temps de latence, zéro jour pour la remise en cause des attentats de Charlie Hebdo, très récemment.
Ah oui, parfois on a même la contestation de la version officielle avant qu'il y ait une version officielle. Donc par avance, je ne serais pas d'accord avec ce que vous allez dire. Oui. Voilà. Et alors ce qui est étonnant avec les théories du complot, parmi toutes les croyances qu'on peut avoir et qui ne sont pas rationnelles, et alors pas rationnelles, ça ne veut pas dire forcément fausses. Nous, on essaye de développer la rationalité, pas la vérité, parce qu'on ne peut pas. On ne sait pas si on va, grâce à la raison, arriver à la vérité, mais c'est ce qu'on espère, et c'est la meilleure manière d'y arriver. Donc parmi les croyances irrationnelles, les théories du complot ont ceci de particulier, qu'elles contiennent leur propre défense. C'est-à-dire que si on imagine, et alors quand on y pense là encore d'un point de vue probabiliste, en fait il y a quelque chose de parfaitement logique là-dedans. C'est si on pense qu'un attentat a en fait été commandité par un groupe de gens qui mentent, et qui ont réussi à convaincre quasiment tout le monde, que ce qu'ils disaient était vrai, et dans la population, on a des complotistes, des naïfs qui croient à la version officielle, et puis nous, on sait la vérité. Voilà. Si quelqu'un nous dit qu'on a tort en nous apportant des arguments, probablement, c'est soit un complotiste, mais c'est, quand je dis probablement, c'est vraiment au sens des probabilités. C'est, si on pense que ça n'est pas un véritable attentat, comme la version officielle le dit, quand quelqu'un nous dit le contraire, c'est probablement un menteur ou un naïf. Et donc c'est logique de ne pas croire ce qu'il nous dit, et ça fait que renforcer, parce que non seulement ça veut dire que ça nous donne une raison de ne pas croire ce qu'il nous dit, mais ça nous donne une raison de conforter notre opinion, puisque du coup ça veut dire qu'il y a bien des naïfs, comme on l'avait dit, voilà, qui nous disent le contraire. Et du coup, c'est très difficile d'en sortir.
Alors, vivons-nous dans une société de parano complotistes? 79% des Français croient au moins à une théorie du complot. C'est ce que nous disait une étude très sérieuse et très angoissante de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès avec Conspiracy Watch, qui soulignait en parallèle la défiance des Français envers les médias, relais de la propagande officielle plutôt que source fiable d'informations. Cette étude, elle a été un peu contestée par la suite dans la manière dont les questions ont été formulées. C'est toujours un peu le problème des études et des sondages. Or, si le questionnement est biaisé, exemple, avec un plateau de sushi à l'appui, extrait de l'émission Arrêt sur Image, et c'est le journaliste Laurent Calixte qui parle.
Celui qui revient fréquemment dans les questions, c'est le paradoxe ou le biais du plateau de sushi.
Voilà.
Plateau de sushi. Alors, on vous propose un plateau avec 10 plats sur ce plateau. Il y a 9 sushis différents. Il y a un cheeseburger ou un hamburger. et les gens vont choisir, bah voilà, je prends ci, je prends ça. Et alors, il est évident qu'avec 9 sushis différents et un seul hamburger, il y aura beaucoup plus de gens qui vont choisir un sushi que de gens qui vont choisir le hamburger. Or, dans la proclamation du sondage, on dira, regardez, c'est étonnant, un seul Français sur 10 aime le hamburger et ils sont 90% à préférer les sushis.
Alors, dans le sondage, deux questions sushis, lesquelles vous avez relevées?
Alors, sur les médias, il y avait 3 réponses négatives possibles et 1 réponse positive. Alors, les réponses négatives, je les résume.
On les voit derrière vous, là.
Propagande, soumis aux pressions du pouvoir politique, restitue l'information de manière déformée, et, globalement, il restitue correctement l'information. Donc, il y a 3 sushis négatifs et 1 hamburger positif. Donc, évidemment, quand on pose les questions comme ça, il y aura un gros biais pour que les gens soient gentiment envoyés vers 75% de réponses négatives et un quart seulement vers une réponse positive.
Ça revient un peu à ce que vous disiez, Nicolas Gauvry, cet exemple du plateau de sushi, tout dépend aussi de la manière dont on formule. Avoir un esprit critique, c'est aussi montrer qu'on est capable de douter de ce qu'on nous présente en permanence, non? Ce qui ne veut pas dire qu'on y croit fondamentalement, profondément.
Oui, il y a quelque chose. Alors, dans ce sondage-là, je n'ai pas regardé précisément ce qui tournait autour des médias, mais j'avais regardé sur la partie théorie du complot, et... Il y a une sorte de paradoxe là qui m'embête, c'est que pour chacune des théories du complot, je suis plus ou moins d'accord que c'est pas rationnel d'y croire. Mais par contre, globalement, je me dis, est-ce que c'est pas rationnel quand même de croire que parmi toutes les choses qu'on nous présente, il y en a au moins une qui soit en fait un complot? Parce que l'argument qu'opposent souvent les complotistes, comme on les appelle, c'est de nous dire que des vrais complots, on sait qu'il y en a. Il y en a plein qui ont été dévoilés. Et donc, très probablement, il y en a encore maintenant. Voilà, et puis évidemment, on ne va pas nous le dire. Donc quand on nous dit le contraire, quand on nous dit qu'il y a eu un attentat ou je ne sais quoi, à chaque fois qu'il y a une version officielle, il est possible qu'en fait ce soit un complot. Et ça, c'est pas faux, c'est possible. En fait, tout est une histoire de degré, de probabilité que ce soit un complot. Et je pense que la différence entre les gens les plus complotistes et les moins complotistes, parce que en fait, nous, on classe pas, quand on fait des recherches sur la théorie du complot, on classe pas les gens en complotistes ou pas complotistes. Il y a c'est des échelles avec des degrés,
croyance.
Voilà, on adhère plus ou moins aux théories du complot. Et là encore, j'imagine que l'idéal ce serait, mais on s'interroge pas pour savoir si c'est bien ou pas bien de croire aux théories du complot. Mais simplement, on imagine que quelqu'un avec un esprit critique serait pas à un bout ou à l'autre de l'échelle, parce que d'un côté de l'échelle, il y a jamais de théorie du complot, et de l'autre, tout est complot, et les deux sont absurdes. C'est toujours la même question. L'esprit critique, c'est un juste milieu en quelque sorte.
Vous faites un détour par les croyances étranges, comme le soucoupisme qui peut prêter à sourire de prime abord, mais qui en fait et qui reste un objet très sérieux d'étude, car il est à la jonction parfaite de cette abondance d'informations qui peut parfois arriver, du rôle des médias qui n'ont pas toujours fait leur boulot sur cette question-là, en rendant aussi crédibles des informations données par le gouvernement américain qui l'a encouragé, et surtout l'influence de la science-fiction qui a modeler aussi nos imaginaires sur ces questions-là. À partir de cet exemple du soucoupisme, est-ce qu'on comprend ce qui se joue aujourd'hui en matière d'information, de désinformation, voire de complotisme sur notre esprit critique? À quel point notre cerveau est faillible et combien il est compliqué de combler toutes ces brèches-là pour réussir à vraiment faire fonctionner son esprit critique?
Alors, je crois que l'intérêt principal de ce chapitre de Jean-Michel Abrassard sur le soucoupisme, c'était de montrer que la science-fiction, en l'occurrence, mais ça peut être le cinéma, les arts en général, peuvent modeler un peu les types de croyances qu'on a. Et donc le message, je crois, c'est qu'il y a toujours eu des croyances bizarres, d'ailleurs toujours liées à peu près à des phénomènes identiques, c'est-à-dire souvent des phénomènes célestes, par exemple, et qui ont simplement été interprétées différemment en fonction de la culture et puis de l'art dans lequel on baigne. Et donc ce qui montre, c'est que peut-être parce que, je sais pas si c'est une relation de cause à effet, mais peut-être parce qu'il y a eu des vagues de livres de science-fiction autour des extraterrestres, on s'est mis à croire que ces objets qu'on voyait dans le ciel et qui parfois sont tout à fait naturels venaient d'autres planètes.
En 30 secondes, Nicolas Gauvry, si vous deviez nous donner les 3-4 règles ou les 2 bonnes règles d'une bonne hygiène mentale, quelles seraient-elles?
Je pense que la première qui vient à l'esprit, c'est douter de soi-même et essayer de trouver des contre-exemples. Je pense que je vais en garder que 2. quand on me dit quelque chose, je pense quelque chose qui marche très bien. Quelque chose qui marche vraiment très bien, c'est essayer de trouver un contre-exemple. S'il me reste 20 secondes pour donner un exemple.
Exemple et le contre-exemple, alors du coup.
Voilà.
5 secondes.
Nicolas Sarkozy avait parlé d'interdire le tabac, sauf dans les bars tabac, parce que, c'était un petit moment, parce qu'on achète le tabac dans les bars tabac et donc ce serait illogique. Et il suffit de penser aux préservatifs pour voir que l'argument ne tient pas et que parfois on achète des choses quelque part qu'on n'a pas le droit d'utiliser sur place. Voilà, j'ai essayé de faire très bref.
Merci beaucoup à vous, Nicolas Gauvry. Je rappelle le titre de cet ouvrage collectif, Des têtes bien faites, défense de l'esprit critique, c'est à lire aux presses universitaires de France. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic avec Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc et Shushan Djergaillan, à Jeanne Copé et Jordan Joseph pour leur aide précieuse. Merci à la réalisation à Marie Placet avec Jacques Hubert aujourd'hui. Très bel après-midi à tous sur France Culture.